Benedicta tu in eternum gloriae, et benedictus fructus ventris tuum. Et in hoc vis, ut veniat mater Domini mei ad amin. Et si enim ut facta est vox salutationis tue in animus mei, ex surtavit in gaudio infans in utero mi. Et beata quae credisti quoniam perficiendo ea quae lecta sunt divia Domine. Et aet magnificat anima mea Domine. Et exultavit spiritus meus in Deus salutavimem, quia est ex situ militate non celle sumi. Et celim ex hoc beatam benedicentem est generationum, quia fecit vivi magna qui potentia, et sanctum nomen ei, et misericordia ecos apogei et apogei, in eretibus eum. Suite du Saint-Évangile selon Saint-Luc. En ce temps-là, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et dans un grand cri, elle s'exclama : Vous êtes bénie entre les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? Car dès que votre salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a fait sa vie d'allégresse dans mes entrailles. Heureuse, vous qui avez cru que s'accompliront les choses qui vous furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante et désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant a fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Ces quelques annonces rapides pour le déroulement de cette journée. Mais avant, je voudrais remercier tous mes confrères, en particulier le Père Marziac, qui est venu avec toute, nous pourrions dire, la Maison Généralice, à ce congrès marial, participer à cette journée du 15 août. Bien sûr, je remercie Mgr Tissier de Malleret et mes confrères, les séminaristes Vaillant et Jacquemet, qui nous ont bien aidés. L'organisation de ce congrès auquel nous attachons une certaine importance repose sur votre bonne volonté. Il est important parce que c'est peut-être d'abord le premier, et puis ensuite parce que nous avons le désir que pendant ce congrès, vous vous remplissiez de la doctrine de Notre-Dame. Nous sommes ici à Lourdes, au prieuré des cœurs de Jésus et de Marie, et nous voyons ce Lourdes petit à petit abandonné, méconnu. Mes prédécesseurs avaient remarqué déjà que même les Lourdais ne connaissaient pas Lourdes, et même les spécialistes, pour ne pas les citer, ne connaissent pas Lourdes. Il nous est arrivé pendant ces deux années, à force d'étudier et de prêcher Lourdes, d'arriver à un certain nombre de conclusions sur le message de Lourdes. De conclusions, nous semble-t-il, théologiques. Il est important que nous connaissions bien Notre-Dame. Il est important que nous sachions qui elle est, ce qu'elle est, pourquoi elle est-elle. Nous pourrions essayer de la définir par les causes, sa finalité ultime, prochaine, son efficacité, ce dont elle est faite et quelle forme elle a. Il faut, nous semble-t-il, aujourd'hui, étudier de plus en plus Notre-Dame. Parce que, eh bien, le flou du catéchisme, de la doctrine, et les erreurs qu'il y a à droite, à gauche, par parfois de fausses apparitions, car il y en a hélas, eh bien, nous font considérer Notre-Dame comme quelqu'un soit de trop sentimental, trop sensible. On oublie qu'elle était la Stabat Mater. Que veut dire ce terme de Stabat Mater? Qu'a pu-t-elle enseigner à Sainte Bernadette? Que veut-elle? Qu'a-t-elle voulu pour Sainte Bernadette et que veut-elle pour nous-mêmes? Quel est cet enseignement, mis à part un rosaire ou un chapelet? Que veut-elle même de nous lorsque nous récitons notre chapelet ou un « Je vous salue Marie » Sainte Bernadette, dès la première apparition, le 11 février, apprenait à faire le signe de la croix. Rien que ce signe de la croix de Sainte Bernadette a converti des âmes. Rien que le signe de la croix. Posez-vous la question si votre signe de la croix est suffisamment exemplaire et qu'il puisse convertir telle ou telle âme. Déjà, cette première réflexion nous plonge dans un profond mystère. Ce qui s'est passé entre Sainte Bernadette et Notre-Dame, ce contact intime qui a transformé Sainte Bernadette à l'occasion de ses 18 apparitions. Alors il nous faut poser toutes ces questions. Dans le carillon de l'Immaculée, qui est le bulletin du prieuré, nous essayons, mois après mois, d'attirer votre attention sur des questions tant de détails que de théologie. Lourdes est une apparition tout à fait exceptionnelle, parce qu'il semblerait qu'à Lourdes, elle soit uniquement théologique, d'une certaine manière. Il n'y a pas de prédication, il n'y a pas de prophétie, de catastrophe. La Sainte Vierge reste discrète. Et cependant, si nous regardons Lourdes parmi toutes les autres grandes apparitions, la Salette, Fatima, la rue du Bac et Pontmain, eh bien nous nous rendons compte qu'elle s'inscrit dans toute cette logique des apparitions de Notre-Dame. Notre-Dame apparaissant à Lourdes sur ce sol français et attendant certainement de la France en ce 15e centenaire une certaine réponse. Cette France qui est son royaume, comme nous l'avons inscrit dans la cathédrale, dans la basilique de l'Immaculée Conception, sur le fronton du grand orgue, le royaume de France et le royaume de Marie, il ne périra jamais. Quelle est la qualité des serviteurs que Notre-Dame veut? Elle nous a donné un certain nombre de renseignements. À nous de les déchiffrer, à nous d'éviter de défigurer Notre-Dame par une mauvaise piété, disons-le, par des bondieuseries, disons-le encore, par un mélange de fausses apparitions, par un manque de doctrine, de catéchisme, par un mélange de sacrements ou de sacramentaux. Il y en a parfois qui font des exorcismes, en veux-tu, en voilà. Ça n'est pas sans prêtre, sans enseignement, sans autorité. Cela ne serait pas normal. Cela, nous pensons que Notre-Dame ne le veut pas. Alors nous avons beaucoup de choses à apprendre. Telle a été notre intention pendant ce congrès marial, pour cette ouverture pour ce congrès marial, que lorsque vous veniez à Lourdes, eh bien vous appreniez justement ce qu'est Notre-Dame. Nous avons dernièrement, dans le carillon de l'Immaculée, entrepris une étude que vous trouverez sur la table du fond. le début d'une étude puisqu'elle semble tout à fait vaste. Il nous semble avoir trouvé une raison particulière à Lourdes, une convenance, ce que nous appelons une convenance. Nous avons remarqué que Notre-Dame de Lourdes apparaissait à des dates bien précises, le 11 février, le 14, le 18, le 7 avril, le 25 mars, le 16 juillet. Nous nous sommes posé la question, pourquoi ces dates? Et d'autres se les ont posées. Nous avons, et comme moi, comme d'autres, avons recherché dans la liturgie. Et puis il nous a semblé bon de mettre en évidence, nous avons remarqué, que Notre-Dame apparaissait justement des moments bien précis de la liturgie. Des moments très importants, basés sur ce que l'on appelle le protévangile. À ce titre, M. l'abbé Duchalard vous parlera de ce protévangile. Le protévangile est le chapitre 3, verset 15 de la Genèse. C'est ce verset qui nous montre du doigt Notre-Dame et la race de la femme. Et Notre-Dame va apparaître au moment où justement ce protévangile va être mis en évidence. Nous arrivons donc à la conclusion que Notre-Dame respecte la liturgie. Si Notre-Dame respecte la liturgie, alors nous sommes arrivés à une autre conclusion. Elle se devait d'apparaître à tel moment, mais elle se devait aussi de ne pas apparaître à d'autres moments. Et nous remarquons que pendant la passion liturgique de notre Seigneur Jésus-Christ, Notre-Dame n'apparaît pas. Cela nous permet de distinguer, de mettre en évidence la délicatesse de Notre-Dame. Nous arrivons à cette conclusion que, puisque Notre-Dame agit ainsi, elle peut faire des choses, comme elle a pu faire certaines choses pendant sa vie ici-bas, mais ce qui irait contre la liturgie, contre la théologie, contre la doctrine traditionnelle de l'Église, serait inconvenant. Et c'est ce que nous désirons que vous appreniez pendant ce congrès, les convenances mariales, ce qui convient à Notre-Dame, ce qui ne convient pas à Notre-Dame, ce qui convient à des serviteurs de Notre-Dame et ce qui ne convient pas à des serviteurs de Notre-Dame. Une ostentation exagérée de notre piété mariale ne serait pas de mise pour des dévots de Notre-Dame. Parce qu'il y a, nous le disons, et cette notion, il faut la comprendre, des convenances. Voilà donc notre intention. Mes différents confrères n'ont pas, lorsque je leur ai annoncé ce congrès marial, ont tout de suite répondu oui. Tous ceux qui sont ici affichés avaient déjà répondu oui en septembre. Monsieur l'abbé Cellini nous parlera de ce lien intime par le sang entre la mère et le fils. Et il faut bien comprendre cette intimité, ce même sang. Saint Thomas aborde la question dans la Somme théologique. Cela est très important. Il abordera sous l'œil du médecin et de l'exégète. Monsieur l'abbé Duchalard nous fera cette actualité du protévangile et de ce qu'est devenu Notre-Dame aujourd'hui dans l'Église moderne et déjà trop vieille. Et cela est très important. Est-ce que Notre-Dame a sa place aujourd'hui ou au contraire, eh bien, est-elle à son tour dévisagée, défiguré. Le Père Marie-Dominique, des Dominicains d'Avrier, nous apprendra à réciter le chapelet, et il faut bien le réciter, ce chapelet, et nous démontrerons, en quelque sorte, par des raisons de convenance,
que Notre-Dame de Lourdes et Notre-Dame du Rosaire. Par l'apparition du 7 avril, à ce titre, vous avez à l'entrée du congrès quelques tableaux que nous avons publiés dans le carillon de l'Immaculée, où sont expliquées ces convenances liturgiques. Et nous essaierons, avant chacune des interventions de mes confrères, de vous introduire dans cet enseignement marial et lourdé. Monsieur l'abbé de Jornat, avec Monseigneur Tissier, nous amènerons, nous plongerons dans la doctrine pure, dans la théologie pure de l'incarnation et de la rédemption. Il y a des tenants et des aboutissants. Ils doivent être respectés. Dieu n'est pas le fruit du hasard. Il est le principe de l'ordre, de la vérité, de la vertu, du bien. Et tous ceux qui dépendent de Dieu doivent apprendre ces grands principes de l'incarnation et de la rédemption. Monsieur l'abbé Lamoran nous apprendra toute la doctrine de Notre-Dame du Mont-Carmel et de son scapulaire. Autre arme enseignée, donnée à Lourdes de par l'apparition du 16 juillet. Le père Anthony et le père Sim, qui nous rejoindront de la communauté des rédemptoristes, nous apprendront qui est saint Alphonse de Ligorie, ce grand dévot, et vous introduira à la lecture de saint Alphonse de Ligorie. Vous avez à ce titre des tables de presse. Jean-Luc Lundy est à votre disposition. Achetez des livres, lisez ceux de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, de saint Alphonse de Ligorie, de tout ce qui est ouvrage marial. Profitez de ce congrès pour vous initier à la lecture mariale. Enfin, monsieur l'abbé Castelin vous introduira dimanche prochain à la lecture et à la consécration de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ces grands dévots. Voilà un peu le programme, l'itinéraire que nous vous proposons. Alors, ce congrès, qui est très dense pendant ces 4 jours, demandera beaucoup d'exigences sur les horaires. Et nous vous demanderons d'être à l'heure. Vous avez remarqué que nous avons commencé à 10h30 et quelques secondes. Cet après-midi, donc, le congrès commencera à 16h. Cette conférence sera donnée, elle sera ouverte à tous, suivie du salut du Saint-Sacrement, des vêpres et du salut du Saint-Sacrement. Demain matin, il y aura des messes à 7h, ici même et au prieuré. Les autels qui, comme nous vous le disions hier soir, qui vous logent, ou au moins ceux que nous avons contactés, sont au courant des différentes heures de repas. Sachez que tout à l'heure, après la procession, vous ne pourrez manger qu'à 2h, 2h moins le quart. Nous vous demanderons d'être à l'heure. C'est une discipline. Et d'être très rigoureux dans les mouvements dans la ville tout à l'heure. Nous insistons, non pas pour manifester une volonté de pouvoir, certains pourraient le penser, mais telle n'est pas notre intention. Nous croyons que de véritables serviteurs de Notre-Dame sont des hommes vigilants, vertueux et vifs. Ce congrès, justement, demande cette exactitude, que ce congrès ne soit pas une œuvre simplement d'intellectuels, mais l'œuvre de dévots qui réagissent et obéissent promptement. En d'autres termes, disons-le tout de suite, nous attendons de vous, pendant ce congrès, pendant cette journée, une grande dévotion, une grande obéissance, une grande humilité, que les gens, lorsqu'ils vous verront, voient des serviteurs de Notre-Dame. et non pas des touristes. Cela, nous l'attendons de vous. Nous attendons cette attitude fondamentale des véritables dévots de Notre-Dame, non pas des têtes en l'air, mais des âmes priantes et dévouées à Notre-Dame. Voici donc quelques consignes et l'esprit dans lequel, eh bien, nous espérons que ce congrès se déroulera. Encore une fois, nous attendons de nos confrères qu'ils vous donnent la plus pure des doctrines, et nous attendons de vous que vous soyez vraiment des âmes mariales et exemplaires et visibles de tout le monde dans l'humilité, la discrétion, la vérité et la vertu. Je vais donc laisser à Mgr Tissier de Malleret le soin d'élever nos âmes avec, en cette belle fête de l'Assomption.
Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Assumta est Maria in cielo gaudent angeli. Marie a été élevée au ciel, que les anges se réjouissent. Ce dogme de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie fut défini, vous le savez, chers fidèles, le 1er novembre 1950 de l'année sainte, par le pape Pie XII de sainte mémoire. En présence d'une multitude d'évêques, parmi eux, Mgr Lefebvre. En cette année sainte, 1950, Pie XII voulut ajouter une nouvelle pierre précieuse à la couronne de la Sainte Vierge. Et il le dit dans sa bulle de définition, pour la gloire, bien sûr, de la Sainte Trinité, mais aussi pour l'exaltation de la Sainte Vierge. Ce n'est pas une nouvelle vérité de foi descendue du ciel, elle était contenue dans le dépôt révélé, mais Pie XII l'a exprimée d'une façon parfaitement claire, ce que tous les âges chrétiens croyaient déjà, que la Sainte Vierge n'avait pas été victime de la corruption du tombeau. Pie XII le définit par une définition, un texte dogmatique définitif. Et ceux qui nieraient cette vérité ne seraient pas catholiques. Bien chers fidèles, pourquoi Dieu s'est-il plu à exalter ainsi la Très Sainte Vierge? Comme dit Pie XII, à la fin du cours de sa vie terrestre, Dieu a élevé Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, à la gloire du ciel, avec son corps et avec son âme. Pourquoi cette assomption de la Très Sainte Vierge? Elle a des convenances, une harmonie avec les autres privilèges de la Très Sainte Vierge Marie, en particulier son Immaculée Conception. La Sainte Vierge, qui n'a pas eu le péché originel, ne devait pas subir la peine du péché originel, qui est la corruption du tombeau. Tu es poussière et tu retourneras en poussière, avait dit Dieu à nos premiers parents. La Sainte Vierge ne retombe pas en poussière. Son corps est préservé de la corruption du tombeau. Harmonie également avec la virginité perpétuelle de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge a conçu, enfanté, le Verbe de Dieu fait chair, sans subir de corruption de son corps virginal. De même, elle va quitter ce monde sans subir la corruption de son corps. Harmonie également avec la maternité divine. Saint Robert Bellarmin s'exclame, serait-il possible que l'Arche d'Alliance, la demeure de toute sainteté, l'habitation du Verbe, le temple du Saint-Esprit, se soit écroulé. Mon âme répugne franchement à penser que cette chair virginale qui a engendré, enfanté, nourri, porté le Verbe de vie soit tombée en cendres ou soit devenue la pâture des vers. Oui, Saint Robert Bellarmin est très réaliste. Il nous montre ce que c'est que la corruption du tombeau, et ce privilège de la Sainte Vierge, préserver cette corruption par son assomption glorieuse. Harmonie également, bien chers fidèles, avec le dôme de la co-rédemption. La Sainte Vierge, nouvelle Ève, triomphante aux côtés du nouvel Adam, en récompense de sa compassion, de ses souffrances co-rédemptrices au pied de la croix. Et c'est ce dernier renseignement que la Sainte Vierge vient rappeler à Lourdes. On obtient la gloire seulement par la croix. Per crucem ad lucem. Pour parvenir un jour à la gloire du ciel, il nous faut prendre le chemin que la Sainte Vierge a suivi, le chemin de croix. Hier, nous avons fait le chemin de croix. C'est le chemin que la Sainte Vierge a voulu prendre avec son Fils, avec son divin Fils, pour parvenir à la gloire du ciel. Et nous n'échapperons pas à cette loi depuis le péché originel. Il n'y a pas d'autre voie de salut, bien chers fidèles, que le chemin de la croix. C'est la Sainte Vierge qui vient l'enseigner à Sainte Bernadette, lui disant qu'elle ne venait pas pour la rendre heureuse sur la terre, mais seulement dans le ciel. Et tous ces innombrables pèlerins qui viennent à Lourdes, ces malades innombrables, fort peu reviennent à la maison guéris. Pourquoi ? Tous ne demandent pas nécessairement d'être guéris. Tous demandent au moins cette grâce de porter généreusement leur croix. Voilà la grâce de Lourdes. Voilà l'enseignement de Notre-Dame dans son assomption glorieuse. Elle est parvenue à la gloire du ciel, oui, en récompense de ses souffrances sur la terre. Oh, comme elle a souffert, Notre-Dame. Dieu ne l'a pas épargnée, spécialement pendant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons donc, bien chers fidèles, beaucoup de grâce, bien entendu, au cours de ce congrès. Vous irez vous recueillir à la grotte, souvent, en particulier. Vous venez charger des intentions de toutes vos familles, de vous-même, des êtres chers qui vous ont confié des intentions de prière. Eh bien, priez avec confiance. Notre-Dame exaltée au ciel, triomphante, assise à la droite de son divin Fils. À côté de la Sainte Trinité, Notre-Dame est toute puissante dans l'ordre de la supplication pour faire exaucer nos prières. N'oublions pas cette belle doctrine de la toute-puissance suppliante de la très Sainte Vierge et par conséquent la confiance totale, l'abandon filial que nous devons avoir envers notre Mère du Ciel. La Sainte Vierge, ce n'est pas seulement la Mère de Dieu triomphante, riche de la plénitude des grâces du bon Dieu, enrichie de tant de privilèges. C'est surtout la Mère très proche de nous, la très Sainte Vierge, qui se penche sur nos misères, qui écoute nos prières, notre médiatrice, notre intercessrice, toute puissante auprès de Dieu. Alors, ayons confiance que toutes les prières que nous allons faire aujourd'hui et pendant ce congrès à la très Sainte Vierge, toutes ces prières seront exaucées d'une manière ou d'une autre. Demandons à la Sainte Vierge, comme ses enfants, de daigner exaucer nos humbles prières, ne pas mépriser nos humbles prières, mais de daigner les exaucer. Et ainsi que nous éprouvions vraiment concrètement dans nos vies, pour notre existence, c'est le fruit de ces belles vérités de foi au sujet de Notre-Dame. En particulier, son assomption et, bien entendu, sa médiation de grâce. Ainsi soit-il. Thank you.
Thank you. ma mère, ô Vierge Marie, je vous donne mon cœur, je vous consacre pour